Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du STIC 2016 et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulot. Alors Nicolas Ruff, le STIC pour nos auditeurs qui pourraient ne pas connaître, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le STIC, ce n'est pas un caucus, c'est un symposium. Le symposium de sur la sécurité des systèmes, des technologies de l'information et de la communication. Et c'est probablement la plus ancienne conférence technique en France, puisque ça date de la première édition a eu lieu en 2003. Donc, historiquement, ça s'est toujours fait à Rennes, pas toujours dans la même salle, mais. Et la marque de fabrique de STIC, c'est pas de sponsor, pas de table de vendeur, pas de sponsor talk, etc. Uniquement soumission et conférences techniques et des actes imprimés avec des papiers de 10 à 80 pages. Voilà, ça c'est vraiment les éléments différenciateurs de STIC dans le paysage des conférences françaises et même internationales.
Et des talks en français.
Et des talks en français. Il y a même eu un rappel cette année pour dire aux gens, dans la mesure du possible, faites vos slides en français. Vos transparents, pardon, vos supports de présentation.
Et donc, alors, cette année, quelles sont les conférences qui ont marqué ?
Moi, j'ai bien aimé celle sur la cryptanalyse en boîte noire de chiffrement propriétaire, où le gars arrivait en gros à repérer du SHA-256 ou du SHA-1 visuellement dans du code hexadécimal. C'était plutôt impressionnant. Et surtout, en gros, ils expliquaient comment, sur des techniques, des solutions de chiffrement propriétaire, il était possible de, retrouver la solution de chiffrement et de la casser. Donc ça, c'était plutôt intéressant.
C'était pas du chiffrement, hein, c'était de l'obfuscation à base de XOR, il suffisait de comprendre comment ça marchait, quoi.
C'était du chiffrement pourri, mais en mode boîte noire, et ils y arrivaient quand même, finalement, sans trop de difficultés. Je sais plus s'ils donnaient la durée, c'était en quelques semaines, je crois, mais ils arrivaient finalement à casser...
6 semaines à 5 personnes.
Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi comme conf J'ai bien aimé celle sur la diode réseau pour les systèmes industriels. C'était pas mal parce que surtout c'était l'une des rares confs sur de l'industriel avec du matos, une petite démo, une jolie marseillaise chantée par l'appliance à son allumage. Donc ça c'était assez rigolo avec le petit drapeau français. ça a fait marrer tout le monde.
Le principe de la diode réseau, comment ça fonctionnait?
C'est en gros de te permettre de laisser passer les flux réseau que dans un seul sens et de contrôler le sens des flux. Vraiment comme une diode. L'intérêt, c'est de couper ton réseau industriel, par exemple, du côté du réseau bureautique, et de vraiment avoir une séparation entre les deux.
Ouais, la diode, c'est un sujet récurrent à STIC. Hein. Ça fait 3-4 ans qu'il y a des présentations à ce sujet, mais là, l'intérêt de celle-là, c'est que c'était vraiment du do-it-yourself à base de Raspberry et de composants achetés sur Alibaba. Et bon, à la fin, ils arrivaient à packager une plateforme pour moins de 200 euros, alors que les solutions industrielles sont vendues hors de prix. Maintenant, quand tu voyais l'intérieur de la boîte, je suis pas sûr que ça passe les tests de résistance aux vibrations, à la poussière et autres contraintes industrielles, quoi.
Non, mais c'est ce qu'il disait justement, que c'était pas, il recommandait pas d'utiliser ça vraiment dans un milieu industriel, mais l'idée c'était de démontrer que voilà, avec un budget somme toute raisonnable, là c'était 200 euros je crois, tu pouvais t'en sortir et avoir une diode qui fait le boulot. Et puis vu le prix, tu peux te permettre de la remplacer assez régulièrement. Il y a une autre conf que j'avais bien aimé, je crois que c'était le même jour, c'était sur le fait de casser la 4G, le LTE. Surtout en fait, les gars avaient mis le doigt sur pas mal de, je sais pas comment appeler ça, des fonctionnalités qui permettent de récupérer les informations que tu ne devrais pas pouvoir récupérer normalement.
C'était des bugs, hein, je crois, mais pas des fonctionnalités.
Ouais, c'était des bugs, ouais.
Ils n'ont pas cassé la 4G, hein. Ils ont cassé l'implémentation Qualcomm et MediaTek de la stack LTE. Mais la 4G en elle-même n'est pas...
Le titre, effectivement, c'était How to Not Break LTE Crypto. Effectivement, c'est les implémentations. Ouais. Après, malheureusement, moi, j'ai dû partir le jeudi soir. Donc, je n'ai pas vu la meilleure des conférences, qui était la première du vendredi matin, celle sur la sécurité macOS. Je sais pas, je connais pas le speaker, je l'ai jamais rencontré.
Alors Nicolas, toi le premier jour, Quels sont les confs qui t'ont marqué?
Alors, j'ai trouvé que la keynote d'ouverture par l'un des leaders, enfin le leader du projet GR Security, Brad Spengler, était vraiment intéressante sur les messages. Après, évidemment, le speaker n'est pas extrêmement charismatique et il parlait avec un accent américain assez difficile à comprendre pour des Français, on va dire. Mais par contre, les messages qui ont été délivrés étaient assez intéressants et sa keynote a été commentée après sur Twitter, sur des listes comme Daily Dave, Alvar Fleck l'a commenté. Enfin, et il disait des choses intéressantes comme par exemple, on n'améliore pas la sécurité en corrigeant des bugs. Parce que des bugs dans du logiciel, actuellement, il y en a tant et plus et... tuer des blocs dans les browsers ou des choses comme ça ne sert à rien. On améliore la sécurité en concevant des mécanismes de défense en profondeur qui sont théoriquement fiables et pas des trucs qui sont à moitié faits où on sait qu'il peut exister un contournement et puis après, l'année d'après, quelqu'un va aller à Black Hat présenter un contournement de la solution qu'on savait déjà contournable. Enfin, il a distillé pas mal de messages, je pense que ça vaut le coup d'aller lire les slides. Malheureusement, il a demandé explicitement à ce que sa keynote soit pas enregistrée en vidéo, donc il reste que les slides, mais bon. Voilà, j'ai bien aimé la présentation aussi sur la sécurité des systèmes de bord dans les voitures, parce que là, c'était des gens qui avaient vraiment fait des audits pour des constructeurs. Et bon, en gros, c'est catastrophique au sens où c'est de l'Android. Enfin, ce qu'ils avaient vu, c'était l'Android 2.2 ou l'Android 4, mais avec toutes les features de sécurité désactivées, il y avait ADB qui tournait en route. Si on se branchait physiquement sur l'équipement, on pouvait directement accéder à une console, les mises à jour n'étaient pas signées, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer, quoi.
Du grand classique, en fait.
Oui, mais finalement, c'est des conférences que pour l'instant, on voyait qu'aux États-Unis, sur des équipementiers américains, etc. Et là, ça prouve qu'en France, ben, il se passe aussi des choses, et il y a aussi des choses qui se font, mais ça passe pas dans Wired, quoi. Ça, c'était pour la première journée. Après, sinon, j'ai bien aimé la conférence invitée sur le reverse de hardware, même si finalement, je l'avais déjà vu, et le gars donne des trainings à Black Hat, etc. Mais en gros, il explique toutes les techniques qui permettent d'attaquer un chip pour aller voler, enfin reconstruire une ROM ou aller voler une clé dans une mémoire. Et le gars, on va dire, ne recule devant rien, quoi. Apparemment, il y a une question à la fin, est-ce que vous êtes bloqué par des techniques? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'échouer? Et apparemment, non. Et ce qui était très intéressant à sa présentation, c'est qu'il dit qu'un labo complet avec tout le matériel pour aller découper une partie de la surface d'un chip, etc., ça coûte 2 millions d'euros. Mais que lui, en fait, il est consultant indépendant et en fait, il va louer du temps d'accès au matériel dans des universités ou des laboratoires. Et du coup, ça lui coûte 50K au maximum pour casser complètement un chip. Donc, quand tu fais une analyse BIOS, enfin, une analyse EAL, voilà, c'est intéressant de savoir que le curseur, en fait, n'est pas à 2 millions d'euros, mais simplement entre 10 et 50K parce que tu peux simplement louer le matériel pour faire un one-off, quoi.
Attends, j'ai un doute, c'est pas lui qui avait présenté à NoSuchCon il y a quelques années, justement, où il ponçait le CPU à l'acide à la fin pour aller lire avec un programme en Python. Enfin, il prenait une photo des bits et il lisait avec un programme en Python pour reconstruire le code. C'était pas lui, non?
Ah, je me souviens plus. Je sais qu'il passe à Black Hat et je l'ai vu d'AUCon aussi, mais par contre, NoSuchCon, je me souviens pas s'il avait parlé. Voilà, sinon, dernier jour, il y a eu quand même une présentation d'Aurélien Bord assez intéressante sur Windows Error Reporting. Où en gros, il explique que à chaque fois qu'un programme Windows crash, il contacte les serveurs de Microsoft. Et en fait, il y a une fonctionnalité qui est parfaitement documentée, hein, qui est que le serveur peut du coup envoyer des scripts à exécuter sur la machine à ce moment-là. Et donc, il a fait une implémentation du Corporate Error Reporting, donc la version entreprise du système, qui peut se configurer par GPO en fait. Au lieu d'envoyer à Microsoft, on peut envoyer un serveur interne de son entreprise. Et donc, il y a une implémentation qui fait 30 lignes de PHP et qui permet d'envoyer des scripts sur n'importe quelle machine où il y a une appli qui crache. Donc là, il y a quand même eu un petit blanc dans la salle quand il expliquait ça. Bon, apparemment, tout est logué dans les journaux Windows et autres, donc on peut facilement voir ce qui se passe, mais apparemment, personne ne le faisait jusque-là, donc...
Enfin, tu avais déjà quelque chose qui était sorti, je crois que c'était en 2014, début 2014, sur les journaux d'événements, enfin les journaux d'erreurs Windows, où tout est transmis Microsoft et la NSA justement collectait ça massivement pour avoir de l'information sur tous les utilisateurs et toutes les cibles potentielles.
Ouais, alors j'avais vu que effectivement il y avait eu des leaks là-dessus. Ce qui était vachement intéressant aussi, c'est le blog post officiel de Microsoft où ils expliquent comment ils ont tracé MS-08-067 dans la nature en se basant en fait sur des crashs de SVC Host qui avaient été reportés, enfin qui avaient été remontés dans la nature, et qu'ils en étaient arrivés à la conclusion que ben, il y avait des gens qui exploitaient ça en zero day. Alors, je sais plus si c'est MS-08, 067 ou celui avec... Ouais, si, ça doit être MS-08, 067. Et c'est un blog post assez récent sur le site de Microsoft qui t'explique ça. Quoi. Ce à quoi, moi, j'ai quand même répondu que quand tu regardes les analyses de Flame par certains éditeurs antivirus, tu comprends que leurs produits antivirus ont la capacité à faire exactement la même chose.
Alors, en ce qui concerne les rumps, toujours un moment attendu, ça.
Ah, les rumps, c'est effectivement un moment très attendu parce que c'est un format qui plaît, quoi. Si la conf est trop longue ou pas intéressante, les gens applaudissent. Donc là, c'est arrivé une ou deux fois.
Ça fait mal au cœur, d'ailleurs, pour la personne. Hein.
Ça fait mal au cœur, surtout sur la conf HGP. Moi, j'ai trouvé que j'attendais la release de l'outil et il a été applaudi. Et franchement, j'attends Beer Rump avec impatience, quoi. Parce qu'apparemment, il va libérer l'outil à ce moment-là. Mais disons que au moins c'est vraiment to the point, quoi. Il y a pas d'introduction, il y a vraiment de soit du troll, soit de la release d'outils, et voilà, tu sais à quoi t'attends. Alors il y a une conf très intéressante sur un bar à Paris où en fait tu payes tes bières avec une carte NFC que tu vas recharger au bar, et t'as la tireuse directement sur ta table. Donc là, tu t'imagines que avec du mi-fer, avec des clés par défaut, ça va assez vite mal se passer, quoi. Aussi une course sur les disques durs chiffrants par les gens d'Airbus qui ont attaqué en fait à peu près tous les disques durs auto-chiffrants de la Terre. Et alors celui-là, bon, ils l'ont pas cité, mais apparemment si tu lui demandes gentiment le code PIN sur le bus USB, il te le donne, quoi. Il y a une course très intéressante aussi sur comment se protéger contre les malwares, et particulièrement les APT. Le gars, il dit, c'est simple, il suffit d'installer tous les antivirus, ou au moins faire croire que tous les antivirus sont installés, de telle sorte qu'une requête WNMI select étoile from antivirus va tous les retourner. Et en fait, de manière assez surprenante, ça bloque pas mal de codes malveillants attribués à des groupes étatiques, quoi.
Et l'idée, c'est que tu fais pareil, tu donnes l'impression que tu as installé tous les HIPS possibles, tous les antivirus, toutes les solutions de sécurité possibles, et tu as de fortes chances de bloquer pas mal de malware comme ça.
Non, mais je suis sûr que ça marche, hein. C'est pareil si tu crées des pipes qui s'appellent SoftIce, que tu fais semblant d'avoir IDA et OliDBG sur la machine, je suis sûr qu'il y a pas mal de malware qui ne s'en plus.
Oui, mais ça, c'est l'approche vaccin, c'est-à-dire que ça marche plus pendant un certain temps, jusqu'à temps que les gens se rendent compte que, ils se font leurrer.
Alors, je pense que ça peut bloquer des attaques pendant un certain temps. Par contre, le problème, c'est que ça va effectivement bloquer pas mal de logiciels légitimes. En particulier, tout ce qui utilise des trucs de... Enfin, tout ce qui est jeux vidéo qui utilise des protections, où le premier truc qu'ils font, c'est vérifier la présence d'un débugger. Même Skype, à un moment, vérifie en fait si SoftIce était présent sur la machine. Bon, je crois qu'ils le font plus maintenant, mais... Voilà, c'est clair que ça peut bloquer des applis légitimes, quoi. De manière assez surprenante, on a eu deux rumps sur Twitter cette année. Apparemment, avoir des followers Twitter, c'est un vrai problème pour tout le monde. Donc il y en a un qui proposait une approche à base de « je vais liker des tweets au hasard et j'espère un follow back ». Donc pour le moment, il a que 2900 followers, mais apparemment à partir de 10 000, Twitter n'envoie plus de pubs. Donc c'est quand même bon à savoir.
Ah oui, c'était ça son objectif, c'est de ne plus avoir de pub à la base.
Ouais, et il y en a un deuxième, lui il voulait des followers pour pouvoir en fait jouer à tous les jeux débiles du type retweeter et RT et Fav, comme ils disent, tel tweet sponsorisé, et vous pouvez gagner, je sais pas, un disque, une PlayStation, enfin une console de jeu, des vacances au soleil ou je sais pas quoi. Bon, apparemment, il a gagné pas mal de trucs, mais rien de tout à fait notable.
Et pourquoi ça augmente tes chances de gagner quand tu as beaucoup de followers sur ce genre de jeu ?
Non, lui, il lui fallait beaucoup de comptes. Et en fait, il faut des comptes qui ne soient pas détectés comme spam par Twitter.
Mais concernant ce qu'il a gagné, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a un cadeau qu'il a gagné. Moi, j'aimerais bien, si le speaker nous écoute, c'est qu'en fait, il a gagné la possibilité d'avoir un montage photo avec deux célébrités à la con de la télé-réalité ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Et donc, bien sûr, il a envoyé la photo de Nicolas pour faire ce magnifique montage. Et moi, j'aimerais bien la récupérer, cette photo, parce qu'elle était très, très belle.
S'il recommence, on enverra la tienne, Vladimir. Qualité. Alors, il y a eu un challenge cette année ?
Et oui, comme tous les ans depuis 2009, c'est l'escalade du challenge Donc cette année, c'était l'ANSSI qui faisait le challenge, puisque ce sont les gagnants l'année dernière qui font le challenge de cette année. Et bon, apparemment, ça a été géré en mode projet. Hein. Il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé dessus pendant plusieurs semaines. Et comme d'habitude, Fabien Périgaud a gagné. Enfin, du moins, il est arrivé deuxième cette année, ce qui était quand même deuxième rapidité, ce qui était quand même assez inattendu. Et par contre, ça a été le seul à résoudre toutes les épreuves du challenge, y compris une qui apparemment était qui s'appelait The Ring, et qui était apparemment complètement délirante, à base de 3 mégaoctets d'assembleurs SSE, qui implémentait en fait des calculs, enfin des bibliothèques Bignum pour faire de la du calcul RSA. Enfin bon, c'était vraiment un truc à pleurer du sang par les oreilles, quoi. Mais sinon, les challenges étaient à base d'itanium, enfin voilà. Le truc rigolo cette année dans les challenges, c'est que il était fait avec RPGGS, donc une bibliothèque qui permet de faire des jeux de rôle à la Zelda entièrement en JavaScript. Et donc il y avait un univers dans lequel on se promenait, on récupérait des challenges, et il y avait une distribution de clés de Shamir qui permettait en fait de passer au monde suivant si on avait validé suffisamment de niveaux en local dans son jeu. Donc, ça, c'était la petite innovation assez rigolote.
Il y avait aussi le fameux mot croisé. Donc là, le challenge du stick que tu pouvais résoudre avec un papier et un stylo aux toilettes. Pas mal.
Ah, sauf que très très peu de gens l'ont résolu. Et en fait, le site magique pour avoir toutes les réponses était bitoduc.fr. Et par contre, il y avait une faute d'orthographe dans le mot croisé, donc sur détricotage, qui donc a beaucoup troublé les gens parce que du coup, ça marchait pas, quoi.
Alors, et le social event?
Alors, le social event, bon, bah Vlad, toi, t'as pas pu y aller. Donc,
non, je t'ai vu en photo du train, j'ai vu surtout le bar à huîtres.
Je pense qu'on peut dire que ça a été fidèle à sa réputation. Alors, cette année, ce qui changeait quand même, c'est que Rennes était à peu près en état d'urgence.
Enfin, en état de siège.
La France est en état d'urgence, mais Rennes est en état de siège, voilà. Avec une voiture de police qui avait foncé dans la foule, des cars de CRS tout autour du social event. Donc il y a eu quand même des consignes officielles de l'organisation, comme quoi il fallait pas venir avec le goodie officiel du stick, qui était un sweat à capuche, parce que ça augmentait les chances d'arrestation à la sortie du social event. Bon, ça a quand même été relativement calme. Donc.
Et alors, est-ce que l'année prochaine, ce sera plus facile d'obtenir une place ?
Apparemment, oui. Parce qu'il y aurait des projets de déménagement dès l'année prochaine dans une salle plus grande, qui ont été évoqués par le président du STIC en fin de session. Mais bon.
Je crois qu'il voulait potentiellement dès cette année, mais du fait de l'état d'urgence, la salle pouvait être réquisitionnée, et donc finalement, ils n'ont pas pu avoir la salle quasiment au dernier moment, un truc comme ça, je crois, non ?
Oui, c'est en fait l'histoire qui est dans les actes, où en fait, ils avaient une salle université juridique, enfin, une salle universitaire qui était en plein centre-ville et beaucoup plus grande, et en fait au dernier moment, quand on leur a dit que c'était une conférence de hackers, ils ont paniqué, ils ont dit oh, mais non, vous comprenez, on peut pas rassembler 600 hackers chez nous en plein état d'urgence, qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des actes cette année, mais les actes étaient très très innovants, avec une mise en page agressive et une petite bande dessinée en guise d'introduction qui vaut le coup. Hein. Je pense qu'on en trouve des copies sur Twitter.
Encore une.
D'ailleurs, les actes sont disponibles en PDF directement sur le site.
Et encore une fois, avec un joli clin d'œil à une personne dont je ne citerai pas le nom, qui est le héros d'une petite BD.
Alors, il y avait plusieurs personnes. Oui. Tous les gens qui ont tweeté à propos de Stick ont été écharpés dans les actes.
Alors, les confs étaient disponibles en streaming ?
Oui, apparemment, cette année, le streaming était d'excellente qualité de bout en bout, avec retransmission des slides d'un côté et de la vidéo de l'autre, enregistrement en temps réel, enfin, enregistrement et publication en temps réel des vidéos, etc. Donc ça, je crois que les gens ont été vraiment très, très satisfaits du streaming.
Et est-ce que les vidéos et les slides sont disponibles ?
Eh ben, tout est déjà disponible sur le site du STIC pour ceux qui ont accepté la publication. Donc en fait, il n'y a que la keynote d'ouverture qui n'a pas été enregistrée, mais même les RAM sessions sont disponibles en vidéo maintenant.
Bon, on a fait le tour ?
D'ailleurs, il y a eu une petite rump, je crois, sur justement leur système vidéo, enregistrement, etc. et publication. Et c'est assez impressionnant de voir au final la qualité du streaming, la bonne synchro de diffusion des vidéos, des slides, etc. Alors qu'en fait, le matos, bah, c'est du matos personnel, avec des câbles collés avec des bouts de scotch, des trucs comme ça. Et c'est quand même vraiment impressionnant parce que la qualité, moi, l'année dernière, j'avais pas pu venir, je l'avais suivi en streaming. Et ça marchait du feu de Dieu.
On a des leçons à prendre alors en ce qui concerne la qualité sonore.
Ouais.
Enfin, la qualité vidéo laissait un petit peu à désirer à cause du nombre de duplicateurs de flux et de transcodeurs intermédiaires.
Bien, qu'est-ce qu'on peut recommander à nos auditeurs de se rendre sur le site du STIC pour regarder les conférences?
Ouais, regarder les vidéos des conférences, consulter les slides et les actes pour approfondir. C'est vraiment très très intéressant.
On peut citer aussi le blog nosecure.org, animé par un contributeur de Limite Sécu, occasionnel, et qui a fait en fait du live blogging sur le STIC. Donc on peut retrouver la plupart, un compte rendu à chaud de la plupart des conférences, une petite synthèse. Quoi.
Bon, Vladimir, c'est l'heure de la Minute Fail.
Et oui, tout à fait.
Alors, est-ce que tu veux bien rappeler à nos auditeurs ce qu'est la Minute Fail?
Alors, le principe du fail, c'est de présenter un incident passé de sécurité en prenant un peu de recul avec humour, mais surtout le principe, c'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors, je pose rapidement le décor, il s'agit d'une entreprise internationale avec une DSI, un RSSI et un SOC. Mais pas de CERT, pas de CERT, et ça sur chaque plaque géographique de la planète. Et donc sur chaque plaque géographique, il y a également un domaine Active Directory, tout ça dans une forêt globale. Sur une plaque que je vais appeler l'Atlantide, pour ne citer personne, le SOC remonte des alertes au RSSI sur le fait qu'il y a des accès assez louches de plusieurs comptes utilisateurs pendant le week-end, pendant le soir, enfin c'est vraiment très bizarre. Donc là directement le RSSI prend le sujet en charge, branle le bas de combat, c'est une intrusion, donc tout de suite le RSSI d'Atlante commande à la DSI d'immédiatement passer une GPO et des scripts pour forcer les changements de mot de passe de tous les comptes. Donc grosse pression, tout le monde a peur, la DSI exécute ça dans l'urgence. Une communication est envoyée le soir et dès le lendemain matin, on passe tous les scripts. L'admin envoie la sauce, mais dans l'urgence, ils ont oublié de prendre en compte les accès distants, les vacanciers et surtout tous les comptes de service. Donc là, c'est panne sur panne, des tas d'applications et de machines ou d'équipements qui fonctionnent plus. Heureusement, ça s'est limité à une plaque géographique. Parce qu'en fait l'admin du domaine était également admin de la forêt, mais n'a passé ça que sur son domaine, heureusement. Et donc bon, le retour à la normale fut assez compliqué avec pas mal de désagréments. Ça fait quelques mois déjà et je suis pas sûr que ce soit tout à fait terminé. Mais donc voilà, bon, gros fail. Et surtout, vous allez me demander ce qu'étaient ces comptes utilisés le soir et le week-end. En fait, c'était juste des développeurs qui avaient laissé des scripts tourner les soirs et les week-ends pour pousser des changements sur les applis en utilisant leurs comptes de domaine AD.
Fail.
Gros fail.
Qu'est-ce que ça met en évidence, ça?
Qu'il faut prendre un peu de recul et ne pas forcément agir dans l'urgence et essayer d'avoir une vision un peu plus d'ensemble. Ouais, prendre du conseil auprès des autres et surtout ne pas agir dans la panique.
Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.
Au revoir.